mesdames, messieurs. Et merci. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Je tiens d'abord à remercier l'Université de Caen et l'équipe du JPM pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de présenter donc sur les badges numériques ouverts. Et surtout pour votre accueil très chaleureux, mais pour moi c'est très sympa, après plus de 30 ans de Finlande, de revenir un peu au pays. Et aujourd'hui c'est une première, c'est ma première présentation en français sur Open Badge. Je travaille beaucoup en finnois, je travaille beaucoup en anglais, donc j'ai un peu le trac, mais j'espère que ça va bien passer. Bon, très, très vite sur mon itinéraire, donc j'ai travaillé 15 ans à l'université d'Oulu en Finlande sur EAO et sur l'enseignement en ligne, avec Nokia, etc. Et ensuite, dans les années 2001, on a créé une entreprise et on a développé beaucoup de, on appelle LMS, hein, des plateformes d'enseignement. J'ai travaillé maintenant sur plus de 6 ans avec les e-portfolio, donc les portfolios numériques. Et depuis 5 ans maintenant, avec Mozilla et la communauté Open Badge sur le développement aussi du standard Open Badge. Et on a donc développé Open Badge Factory, qui est une plateforme pour créer et mettre des badges, et Open Badge Passport, qui est un sac de badges donc pour recevoir les badges numériques ouverts. Et si vous voulez savoir où est Oulu, vous avez sur la carte un petit point en haut. On est sur la côte, un peu comme Caen, mais un peu plus haut. Voilà. Très bien. Donc c'est un concept élaboré par Mozilla en 2012, hein, je passe assez vite. À l'origine, c'est un concept intéressant parce que, comme disait François Tadet tout à l'heure, il y a des millions de gens qui ont des compétences non reconnues. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour une société numérique moderne. Et donc l'idée d'Open Badge, c'est de mieux reconnaître des compétences informelles, d'abord, informelles et aussi formelles, pourquoi pas. Les compétences qu'on appelle en anglais les compétences du XXe siècle, donc des compétences générales, transversales, technologiques, et surtout pour réduire le décalage qu'on a entre le monde de l'éducation et le monde du travail, hein, un décalage surtout au niveau des trouver disons, des gens compétents, puisque les compétences ne sont pas mises toujours en valeur, c'est difficile. Donc c'est un concept qui est assez, je dirais pas révolutionnaire, mais c'est quand même, il y a une certaine rupture, disons, hein, une mise en cause d'une reconnaissance traditionnelle des connaissances et des validations. C'est très démocratique, parce qu'à la limite, un individu pourrait créer un badge pour reconnaître aussi ses propres compétences ou des compétences de pair. Et donc il y a un déplacement du centre d'intérêt dans ce concept, on dirait, de la performance scolaire, hein, plutôt sur les compétences, des connaissances vers les compétences, et aussi un déplacement, en fait, d'un point de vue de l'institution, beaucoup plus sur l'apprenant. Donc c'est, en anglais, on dit « learner-centric », hein, c'est... Donc le récepteur du badge, le bénéficiaire du badge peut en fait choisir, d'accord, si ce badge m'intéresse, je peux le recevoir, l'accepter. S'il n'a aucune valeur pour moi, bon, ben je le refuse, quoi. D'accord. Donc on a un choix, et c'est important. Voilà un badge de Normandie, hein, je crois que c'est un badge du DRAF ici, mais il y a déjà des badges à Caen. Hier, on a fait plusieurs badges à l'atelier, et je pense que Caen est en France... vraiment une université déjà, disons la Normandie, je dirais, est déjà en pointe sur les badges. Vous avez bien commencé. Donc vous voyez, il y a une image et de l'information, hein, à partir du badge. Bon, l'information, ici, elle est un peu plus détaillée. Donc vous avez l'émetteur du badge. Hein, un badge est toujours émis par une organisation ou par quelqu'un. Un badge a un nom, hein, une description courte. Une page de critères, ce sont les critères qui sont utilisés pour reconnaître les connaissances du bénéficiaire du badge. On a aussi des champs pour les référentiels, hein, vous pouvez aller sur CEC ou d'autres référentiels, et vous avez aussi des mots-clés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le badge class. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller trop technique, parce que quand vous recevez un badge, quand votre étudiant recevra un badge, bon, lui, il verra une image et du texte, en fait. Hein. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, bon, vous avez le côté qu'on appelle assertion. Bon, le côté assertion, c'est plus en fait les informations qui sont liées aux bénéficiaires du badge. Qui reçoit le badge, en fait, c'est une adresse mail. on peut placer une preuve, hein, une preuve dans une demande de badge. Ça peut être un texte, une image, une vidéo, comme vous voulez. Et le badge est émis, peut être, disons, pour toujours ou pour un certain temps. Donc vous avez une date d'émission et une validation pour un certain temps. Et le badge est vérifié aussi à partir d'un URL, donc c'est une vérification, disons, technique. Alors, bon, les caractéristiques du badge ouvert, numérique ouvert, c'est que ce n'est pas simplement une image d'Épinal, hein, ou une petite, comment on peut dire, un petit signe, hein, c'est que c'est vraiment, en fait, une image qui contient des métadonnées qui sont utilisées par le créateur ou l'émetteur du badge pour reconnaître et présenter donc, les compétences, les aptitudes, les attitudes aussi, hein, du bénéficiaire du badge. Donc, c'est relativement simple et c'est très, très générique. Ce n'est pas simplement les compétences. Dans certains contextes, on va aller surtout sur les compétences. Dans d'autres contextes, on va aller surtout sur les attitudes ou sur l'engagement, sur les soft skills, etc. Bon. Et ce qui est très, très important, c'est que le bénéficiaire du badge lui-même décide, hein, s'il va le prendre, le badge ou non. Et le badge numérique ouvert est standard. Bon, ça, c'est très important parce qu'il est standard, donc il a une valeur globale. Hein, le badge émis par l'Université de Caen pourra être reconnu dans le monde entier. C'est pas lié à une plateforme, c'est pas lié à qu'on pourrait dire, un système. Hein, c'est vraiment standard. Et le standard, maintenant, la nouvelle version, c'est la version numéro 2 qui est sortie, en fait, il y a quelques mois. Et donc, le badge numérique aussi est beaucoup plus qu'un certificat numérique. Hein. C'est un outil de communication. Alors, ça, c'est une chose que je veux mettre toujours en valeur, hein, pour éviter les raccourcis, d'accord ? Badge numérique, certificat numérique. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? On peut faire ça très, très, très facilement. Mais en fait, ici... Je veux vous montrer en fait ce que j'appelle la valeur du badge. Je suis désolé, ça c'est en anglais, j'ai pas eu le temps de traduire. Hein. Mais on a souvent, en tant que dans le monde académique, disons dans le monde scolaire, on a toujours une tendance à voir la valeur du badge simplement du côté de l'émetteur du badge. Donc si on crée un badge de qualité, hein, on s'aligne sur les compétences, sur les cadres de compétences, on travaille bien sur la définition en fait du contenu, on pense que bon, le badge aura une valeur à 100%. Bon, en fait, il faut penser que la valeur, elle sera pour le bénéficiaire. Donc, vous devez penser, en fait, quelle sera la valeur de mon badge, du badge que je vais émettre, pour le bénéficiaire. Pourquoi? Dans quel contexte? Comment va-t-il utiliser son badge? Donc, ça demande un travail de recherche et de collaboration aussi avec, disons, le bénéficiaire du badge. Bon, après, lui, la valeur du badge pour le bénéficiaire, elle va, en fait, venir de la valeur du badge pour ce qu'on appelle l'audience. Ça peut être l'employeur, ça peut être une école, ça peut être une association, etc. Et ensuite, cette valeur va s'accroître ou diminuer suivant la valeur du badge dans le réseau. Hein. Si vous avez un badge qui est émis par l'Université de Caen, qui a une valeur pour un étudiant en médecine, si ce badge a une valeur pour les employeurs, hein, les hôpitaux de Normandie, mais si le badge en plus est reconnu par d'autres universités, pas simplement en Normandie, mais dans toute la France, le badge aura une valeur très très importante ensuite pour toute la chaîne en fait. Donc la valeur d'un badge, en fait une chaîne de badges, il ne faut pas travailler simplement du côté émetteur, bénéficiaire, audience, il faut travailler en fait sur les liens, sur les communications entre les différents acteurs donc, de cette chaîne de badges. Donc c'est très distribué, c'est très difficile pour certaines organisations qui pensent dans les termes très très centralisés. Oui, il faut pouvoir comprendre le parcours que le badge va faire dans cette chaîne de valeur. Bon alors pourquoi la Finlande, hein? Bon, la Finlande c'est un des premiers pays d'Europe qui a commencé vraiment à utiliser les badges dans le domaine de l'enseignement. Et comme on peut dire, c'est un petit pays, 5 millions d'habitants, et c'est un pays qui travaille beaucoup sur la formation des professeurs. Donc il y a une qualité pédagogique, hein, beaucoup. Et donc ils aiment beaucoup aussi tout ce qui est nouveau, les nouvelles techniques, ils sont prêts à utiliser tout de suite. Et donc c'est un laboratoire, je dirais. On a donc la possibilité de voir ce qui se passe avec les badges numériques ouverts en Finlande. Ça pourrait vous aider, dans un pays beaucoup plus grand que la France, à voir à peu près comment les choses avancent, quelles sont les difficultés, les problèmes possibles que vous pourriez éviter. Alors bon, donc ça a été introduit en 1915 avec le développement de notre plateforme. C'était la première plateforme sur le marché. Bon, notre plateforme, c'est une plateforme globale, hein, c'est pas simplement finlandaise, mais moi je sais à peu près ce qui se passe sur le marché, disons, finlandais. Ils ont émis à peu près 70 000 badges. On a 40% d'associations, 50% d'enseignement secondaire et supérieur et 10% d'entreprises. Alors les entreprises arrivent doucement, hein, parce que bon, les entreprises n'ont rien contre les badges, mais les entreprises attendent de voir des badges émis par les universités et les écoles, ce qu'on appelle en Finlande les écoles mais polytechniques. Mais on voit déjà une croissance. On a une acceptation des badges qui est à peu près de 42%. Bon, 42%, c'est pas mauvais, mais on pourrait faire mieux, et je vais vous expliquer comment on pourrait faire mieux, comment les badges pourraient être mieux reçus par les bénéficiaires. Bon, les compétences validées et identifiées en Finlande sont surtout des compétences numériques et pédagogiques qui sont liées aux enseignants. Bon, les Finlandais sont innovateurs, mais ils ne sont pas fous, hein, ils sont prudents. Alors, ils commencent avec les professeurs, parce que vous testez le concept avec les professeurs, d'abord, c'est une bonne façon d'abord de le tester, hein, et aussi, c'est une bonne façon aussi pour les professeurs de comprendre la valeur du concept et ensuite de pouvoir l'utiliser avec les étudiants. Donc, ça passe toujours. Innovation par l'enseignant. Quand l'enseignant se sent bien avec ce nouveau concept, il peut ensuite travailler avec ses étudiants. Donc, les compétences spécifiques à des emplois aussi, on voit ça dans certaines écoles, donc travail d'équipe, surtout sur la programmation, sur ce que vous appelez en français les TIC, hein, c'est ça. On a quelques projets déjà qui touchent vraiment des étudiants dans ce qu'on appelle des écoles de sciences appliquées. D'accord ? Et les associations utilisent aussi les badges pour reconnaître des compétences qui sont liées au bénévolat, à la gestion, l'organisation, l'animation, la coopération. Bon, je dirais que d'une façon générale, les associations avancent plus vite avec les badges parce qu'elles n'ont pas la tradition des certificats et des diplômes. Hein. En Finlande, au début, il y avait clairement une petite friction. D'accord, on a une forme de certification souple, moderne, qui risque de remettre en cause en fait les diplômes. Bon, c'est pas ça. Dans les badges, ne remettent pas en cause les diplômes, pas du tout. Je dirais qu'ils donnent une valeur supplémentaire, hein, pour reconnaître toutes les compétences qui ne sont pas reconnues en fait par les diplômes. Les diplômes, dans beaucoup de cas, reconnaissent surtout des connaissances et pas vraiment des compétences. Alors, maintenant, on a eu une extension très nette en Finlande. On va sur les écoles de programmation, hein, les code schools. On a aussi, on travaille beaucoup aussi avec les lycéens sur l'esprit d'entreprise, hein, et aussi sur les compétences sociales, soft skills. Alors maintenant, concernant les enseignants, on a un grand projet en Finlande qui maintenant est devenu projet national. C'est un projet dans lequel on a émis, ça s'appelle Opiminen Online. Et c'est un projet où on a créé 75 badges pour reconnaître les compétences des professeurs. Et ça a très bien marché. Et l'idée, ça a été de reconnaître les acquis. Et pas simplement de former des professeurs et ensuite de leur donner un badge après un cours, mais plutôt de reconnaître les acquis à partir des badges. Et ensuite, dans ce projet, seulement 16% des enseignants ont été formés à partir des badges. Donc on a vu à partir des badges que certains enseignants ne maîtrisaient pas certains domaines et ensuite ils ont été formés. On évite de faire une formation de 100%, hein, qui est une perte d'argent, une perte de temps. Alors, on s'est aperçu au début dans ce projet, c'est que si vous envoyez un badge à un bénéficiaire après un cours, l'acceptation du badge va tourner entre 10 et 12%. Donc, c'est très mauvais. Bon, pourquoi ? Dans la plupart du temps, il y a un problème de communication. Hein. Donc, on oublie totalement de dire pourquoi le badge a été émis. Qu'est-ce qu'un badge numérique ouvert ? Mais aussi parce que recevoir un badge, c'est vous mettez le bénéficiaire du badge dans une situation passive. Hein. Vous êtes un récepteur de badge. Bon, maintenant, dans ce projet OpenMillennium Online, on a compris ça très vite au début avec mes partenaires, etc. On a compris que ça ne marchait pas et on a créé ce qu'on appelle une demande de badge. Et faire une demande de badge, c'est lié à un badge, un formulaire qui va servir pour saisir en fait les évidences produites par les apprenants. Et dans ce cas-là, on a une acceptation des badges qui tourne entre 85% et 90%. Pourquoi ? Les gens sont motivés. Ils savent pourquoi ils vont avoir un badge, parce qu'ils font une demande de badge eux-mêmes. Hein. Ils vont produire des évidences. Bon, les évidences, ça demande du travail, hein. On travaille. Et après, si le travail est bon, on va avoir ensuite un badge qui est, je ne dirais pas une récompense, mais il y a un examinateur qui va vérifier donc, les évidences, qui va valider vos compétences, et donc il y a un succès. Voilà. Et donc vous passez de 12% à 85% à 90%. Et ça, c'est très très important d'un point de vue stratégique, hein, pour éviter les problèmes, disons, avec ce concept. Bon, maintenant, le problème, c'est d'éviter l'usine à gaz. Hein, si vous avez, en Finlande, il y avait 5000 professeurs dans ce projet. Si vous avez, on avait au début, la première année, ils avaient, 10 professeurs pour examiner des milliers de demandes de badge, vous pouvez imaginer qu'on a besoin d'aspirine, hein. Ça passe pas tout seul. Alors là, on a développé une nouvelle approche. D'abord, on a remis en cause le modèle traditionnel de l'enseignant, bon, le domaine, disons, le rôle traditionnel où seul l'enseignant peut examiner des demandes de badge, hein. On est parti sur un modèle que j'appelle évaluation des pairs. Donc, les professeurs, les enseignants qui ont reçu un badge de niveau, par exemple, expert, hein, sont autorisés à partir du badge à évaluer des demandes de badge à niveau basique. D'accord ? Donc ça permet, à partir de là, d'engager, avec les badges, d'engager une communauté d'experts reconnus par les badges comme examinateurs de demandes de badges. Donc c'est une façon très 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 puissante en fait d'élargir ce système de reconnaissance des compétences. Bon, il y a toujours des doutes dans le niveau au niveau académique. On dit bon, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance, reconnaissance par les pairs, etc. Bon, mais ça c'est les badges, c'est comme ça. Hein, ça remet toujours en cause quelque chose et ça montre ça révèle des points sensibles. Hein. Le rôle du professeur, c'est un point sensible. La collaboration, c'est un point sensible, etc. Bon, alors, l'évolution observée dans le parcours finlandais est intéressante. Hein. La première phase, on a eu une phase de 1 an et demi, 2 ans, que j'appellerais une phase d'exploration. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, chacun crée son propre badge, ou ses propres badges, l'utilisent prudemment. Il n'y a pas eu d'inflation. Au début, on m'a dit, Eric, ça va être une catastrophe. Ils vont faire 10 000 badges, et on va se noyer dans les badges, ça ne va avoir aucune signification. Bon, c'est plutôt le contraire. Les gens sont sérieux, ils travaillent avec les compétences, etc., ce qui fait qu'au bout d'un an, ils sortent 5 badges, et ils en envoient 5 ou 6. Et c'est plutôt le problème, en fait qu'il n'y a pas d'impact suffisant parce qu'il n'y a pas suffisamment de badges. Oui. Bon, mais la période d'exploration en Finlande est clairement passée maintenant, et on est passé à une phase numéro 2, que j'appellerais la phase d'amélioration, de consolidation. Donc maintenant, on met l'accent sur le développement de la qualité. Maintenant, c'est le badge, les standards, les cadres, comment on pourrait dire, de compétences. Hein. On travaille beaucoup maintenant sur CEC, dans beaucoup de projets finlandais, et QF. Hein, on a une amélioration, je dirais, de la qualité du badge créé par l'émetteur du badge. Et maintenant, on a quelques gros projets qui deviennent nationaux, qui rentrent dans une phase que j'appellerais phase d'extension et de coopération. C'est-à-dire qu'on a compris assez vite que si on veut avoir un impact important sur la population, les badges devraient créer ce qu'on appelle des badge systèmes ou des écosystèmes. D'accord ? Parce que, en tant que bénéficiaire du badge, si vous recevez un badge qui est endossé, qui est reconnu, qui est cautionné par plusieurs établissements, plusieurs universités, ben ce badge aura une valeur pour vous en tant que bénéficiaire beaucoup plus importante qu'un badge émis simplement par une seule organisation. Donc maintenant, en Finlande, on a une phase de collaboration où on a plusieurs organisations, niveau, disons, scolaire, éducation, association, qui commencent à travailler sur des systèmes de badges, qui sont des systèmes de badges régionaux. Je pense que la Normandie aurait la possibilité de travailler assez vite à ce niveau-là, parce que vous travaillez beaucoup avec les autres universités dans la région, les établissements agricoles, etc. Et maintenant, on a donc quelques projets fondés par le ministère de l'Éducation. Alors maintenant, bon, la grande question pour beaucoup d'organisations en Finlande, c'est ça. C'est comment créer des systèmes de badges numériques ouverts, cohérents et reconnus par une large population. Alors, on a un projet Nord Plus. C'est un projet sur le vocational learning. C'est sur la formation des adultes. Et ça, c'est le premier projet qui est scandinave. Donc, on a des badges qui sont définis sur CEC, c'est EQF en anglais, et qui vont être utilisés dans toute la Scandinavie, donc du Danemark, même Islande et Finlande. Bon, maintenant, on a une co-création de badges. Donc, il y a des écoles qui créent des badges ensemble. Et il y a des badges qui sont partagés aussi. Donc, il y a deux choses. Les badges qui sont partagés et qui, bon, à partir du mois de septembre, octobre, pourront être endossés par d'autres organisations. Et on les badges qui sont partagés, donc créés par une organisation et émis par d'autres organisations. Et maintenant, depuis 2-3 semaines, on a ce qu'on appelle dans Open Badge Factory des badges multilingues qui permettent d'avoir des badges en finnois, en suédois, parce qu'en Finlande, on a le finnois et le suédois, mais qui sont aussi en anglais, donc qui sont reconnus aussi à un niveau international. Bon, pour des petits pays, ça donne la possibilité de sortir des barrières, disons, nationales, des frontières nationales. Alors, quelques difficultés et quelques risques, peut-être que ça pourra vous aider un peu en Normandie, je ne sais pas, mais alors, les badges, c'est très très intéressant parce que ça remet toujours en cause. Alors, on voit que coopérer n'est pas toujours évident. Alors, on se dit, on va travailler ensemble, on va faire des badges ensemble. Et puis, on s'aperçoit que, c'est vrai qu'en principe, on coopère, on collabore, mais en fait, on n'a pas vraiment de structure qui fonctionne. Donc, on a pas mal d'écoles maintenant ou d'organisations qui travaillent d'abord sur la création de méthodes de coopération. Comment pourrons-nous travailler ensemble pour créer des badges, d'accord ? Et puis, nous, sur Open Badge Factory, on travaille sur le développement d'outils qui permettront aux organisations de créer des projets communautaires. On crée un projet badge, et les organisations pourront aussi, sous la forme d'un wiki, collaborer sur le contenu du badge. Bon, maintenant, les risques. D'une façon générale, je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop fixé sur la question de la qualité. Bon. On a une tendance dans le domaine universitaire à avoir, disons, la question de la crédibilité. C'est une question souvent qui revient, parce que les badges ne sont pas des certificats ou des diplômes officiels. Donc on a besoin de crédibilité. Et à mon avis, on se lance beaucoup dans des justifications. Et on fait trop d'efforts, je dirais, sur les données de l'émetteur du badge, et on oublie assez vite le bénéficiaire du badge. Et le gros risque, si vous oubliez la valeur du badge pour le bénéficiaire, ça ne va pas marcher. Vous allez faire des badges magnifiques, du point de vue contenu, mais ces badges-là n'auront pas forcément de sens pour le bénéficiaire. Donc c'est un risque. Donc, le badge n'est pas non plus une vérité absolue. Le diplôme n'est pas une vérité absolue. Le certificat n'est pas une vérité absolue. Moi, je suis employeur. Quand j'emploie quelqu'un, j'interview quelqu'un, j'ai affaire à une personne. Je l'écoute et les notes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si cette personne a des compétences sociales, des compétences professionnelles. Donc, on a une tendance avec les badges à penser compétences, à penser vérité absolue. Et là, après, on se bloque sur un travail d'ingénieur de l'information. Hein, et on devrait plutôt s'ouvrir vers la communication. Voyez, et à la limite, bon, c'est mon dernier point ici, c'est qu'il faut avoir des badges en fait, qui vraiment prennent en compte le bénéficiaire. Et dans beaucoup de cas, il faudrait avoir un discours avec les étudiants, hein, travailler avec les étudiants pour développer les badges qui sont importants pour eux et pas simplement pour l'université. Alors, en conclusion, donc, il est question d'une technologie de rupture qui transforme donc la façon dont nous reconnaissons les compétences, et ça demande du temps. Ça, la transformation de la façon dont nous reconnaissons les compétences, ça ne va pas se faire en 2, 3, 4, 5 ans. À mon avis, c'est bien parti. Dans beaucoup de pays, il y a un travail très, très important sur les badges. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, on commence. En Finlande, Afrique du Sud, Inde, Australie, pour citer quelques pays. Mais ce n'est pas le boom. Hein. Ça ne se passe pas en 3 ans avec des projets de l'Union européenne. Ça commence bien avec l'Union européenne, mais ça avance doucement. Bon, ce qui est très important, c'est la communication. Donc, il faut expliquer aux bénéficiaires et à l'audience du badge pourquoi des badges, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur badge. C'est un gros travail de communication. Mais la communication ne suffit pas, il faut engager les gens. Et comme je disais avec l'exemple d'évaluation par les pairs, permettre à quelqu'un ayant un badge de devenir examinateur, évaluateur, c'est l'engager dans la communauté, c'est lui donner un rôle. Et quand vous engagez les gens dans une communauté, vous verrez que ça fonctionne beaucoup mieux qu'en les gardant dans un rôle passif de récepteur. Donc un peu d'imagination, je pense que vous pourriez faire des choses très très intéressantes là-dessus. Et je dirais aussi que ce qui est très très important, c'est d'avoir aussi un impact suffisant sur notre société. Hein. Donc je parlais beaucoup de la coopération, la co-création. Je crois que c'est très très important d'avoir des badges reconnus par plusieurs universités. Hein. Ça donnera un poids beaucoup plus important au badge pour les bénéficiaires. Et à mon avis, au départ, c'est très très difficile de trouver un équilibre entre deux choses. Hein. Soit viser sur les écosystèmes, qui demandent un travail très très important. Il y a un risque de créer ce qu'on appelle des cathédrales. Hein. On va travailler sur 10 ans sur un système de badge très 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 pointu. Et il faut avoir en fait les deux. Il faut avoir des badges qui vise à 2-3 ans, vous voyez, des badges vraiment de qualité. Et il faut avoir aussi des badges qui seront émis beaucoup plus vite, hein, pour engager vos bénéficiaires dans le concept. Donc vous pouvez avoir des badges sur les soft skills, vous pouvez avoir des badges qui auront une valeur pour 6 mois, hein, pourquoi pas, 1 an. Donc le badge, ce n'est pas toujours un badge universel, hein, pour la vie, mais vous pouvez avoir des badges pour motiver des enseignants ou des étudiants. Donc, évitez surtout les projets ambitieux, ça c'est mon message. Hein. Et il faut les deux, des badges sérieux, mais aussi des badges sociaux, parce que les badges ne sont pas simplement des credentials, hein, des credentials, comme on dit en anglais, des certificats. Les badges sont des connecteurs. Et il est très très intéressant à partir des badges en fait, de construire des communautés, de supporter des communautés de practice, hein, et d'engager, en fait, de motiver à la fois les étudiants, les professeurs, les enseignants, mais aussi les employeurs. Voilà, merci.
Merci, merci Eric d'avoir tenu le timing idéalement. On a le temps pour deux petites questions avant de prendre la pause. Oui, j'amène le micro.
Oui, merci. Combien vendez-vous un badge à une université finlandaise ou à l'éducation nationale finlandaise? Quelques notions de coût de...
On ne vend pas le badge et c'est en fait une très mauvaise idée de vendre un badge parce que bon, vous avez ensuite la question est-ce qu'on achète ou pas, hein, et bon, le badge ça devrait être ouvert pour tout le monde. Open Badge Factory c'est une plateforme, hein, qu'une école, une organisation peut utiliser pour créer ces badges. Et là, on a l'école ou l'université paye pour la plateforme, mais les badges sont gratuits pour les bénéficiaires. Et on peut émettre autant de badges qu'on veut. Et c'est le prix de, si vous voulez, c'est 600 euros pour un an, bon, et pour une université, par exemple. Donc, ce n'est pas énorme. Le passeport, c'est l'endroit où vous pouvez recevoir les badges, et gratuit. Hein, c'est un système cloud, et l'étudiant, le professeur, peut lui-même décider s'il met ses badges dans le passeport.
Les entreprises, pour l'instant, ont l'air plus ou moins attentistes, et le nœud du problème, il est là. Il faut que les badges commencent à être utilisés par les entreprises pour que ça soit une signature de la mise en place de l'écosystème. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, parmi les entreprises qui ont commencé à regarder ça, est-ce que certaines commencent à utiliser les badges dans leur fonctionnement au quotidien, par exemple pour faire du management de ressources humaines ou ce genre de choses?
Oui. Tout à fait. Bon, d'abord, du point de vue des entreprises, je dirais qu'en Finlande, on n'a que 10%. Donc, on a des grandes entreprises du côté commerce, hein, par exemple, des chaînes de magasins, etc. Mais aux États-Unis, il y a Microsoft, IBM, ils utilisent les badges pour... ils ont Big Data Academy, par exemple. Et ils utilisent les badges aussi pour le développement du personnel. Alors, j'ai quelques clients en Angleterre, une chaîne d'hôpitaux, par exemple, qui utilisent les badges pour motiver, reconnaître les compétences de leur personnel pour les infirmières et les techniciens. Donc, il y a vraiment un usage déjà interne, c'est ce qu'ils appellent staff engagement. Mais bon, là, on a besoin, d'un point de vue technique, d'avoir pas mal d'intégration encore, parce que dans le domaine des entreprises, utiliser les badges, ça veut dire que les badges devront être liés aussi à leur système qui s'appelle HR, donc ils ont des plateformes, et c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils veulent tout avoir dans un système, d'accord? Bon, avec les universités, les écoles et les associations, vous émettez un badge, bon, le badge part ensuite sur le bénéficiaire peut faire ce qu'il veut avec, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôle sur la vie du badge. Mais dans les entreprises, il y a souvent l'idée, est-ce que le badge doit être public ou pas, hein? Il y a les headhunters qui vont arriver, qui vont recruter nos employés. Bon, donc c'est un peu plus compliqué.
Alors, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Je vois bien l'intérêt des badges pour les étudiants et pour les entreprises. Il n'y a pas de souci. Moi, ma question, c'était plutôt les badges vis-à-vis des membres du personnel et des enseignants des universités. Est-ce que les universités finlandaises se sont emparées de l'utilisation de ces badges pour essayer de mettre en place leur politique d'établissement, voire l'évaluer? Alors, je prends un exemple, par exemple. On pourrait imaginer qu'un établissement dise « Moi, je souhaite que mes enseignants soient formés aux nouvelles pédagogies et je souhaite qu'ils suivent une formation tous les 5 ans. » Et s'ils le font, ils ont un badge. Et cette badge, ce sera une reconnaissance que l'enseignant va mettre à jour ses connaissances et essayer de se perfectionner dans l'enseignement. Et l'établissement pourrait s'en servir pour justement solliciter ces personnes dans des commissions ou les mettre en valeur dans des événements, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc ça commence. Hein. Donc, et l'idée avec les badges, comme un badge, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des badges clés, hein, donc un grand badge qui contient en fait une chaîne de badges, un chemin de badges. Donc vous pouvez avec les badges en fait créer des programmes de développement et suivent ensuite la progression des professeurs, par exemple, dans la chaîne. Et je dirais que pour les professeurs, pourquoi les badges en Finlande et pourquoi le TIC, hein? Parce que c'est très très important que les professeurs apprennent donc des techniques numériques, hein, les maîtrises, mais c'est très difficile de voir ce qui se passe dans l'université, par exemple, à un niveau global. Hein. Qui sait quoi? Et avec les badges, c'est tellement, granulaire, modulaire, que vous pouvez avoir un pulse qui va créer ensuite un profil sur l'enseignant. Merci.
Bien, merci. Je vous propose de continuer à interagir avec Eric lors de la pause café. Donc, on va y aller. 15 minutes pour pas trop se mettre en retard sur le planning. On se retrouve ici pour une session sur les lieux d'apprentissage.